Chapitre 2. Monsieur le maire d'Orcival se trompait. La porte du salon s'ouvrit brusquement et on aperçut, tenu d'un côté par un gendarme, de l'autre par un domestique, un homme d'apparence grêle qui se défendait furieusement et avec une énergie qu'on ne lui eût point soupçonnée. La lutte avait duré assez longtemps déjà et ses vêtements étaient dans le plus effroyable désordre. Sa redingote neuve était déchirée, sa cravate flottait en lambeaux, le bouton de son col avait été arraché et sa chemise ouverte laissait à nu sa poitrine. Il avait perdu sa coiffure et ses longs cheveux noirs et plats retombaient pêle-mêle sur sa face contractée par une affreuse angoisse. Dans le vestibule et dans la cour, on entendait les cris furieux des gens du château et des curieux. Il était plus de 100 que la nouvelle d'un crime avait réuni devant la grille et qui brûlait de savoir et surtout de voir. Cette foule enragée criait « C'est lui, à mort l'assassin, c'est Guespin, le voilà !» Et le misérable, pris d'une frayeur immense, continuait à se débattre. « Au secours » hurlait-il d'une voix rauque à moi, « lâchez-moi, je suis innocent !» Il s'était cramponné à la porte du bar-salon et on ne pouvait le faire avancer. « Poussez-le donc, commanda le maire, que l'exaspération de la foule gagnait peu à peu, et poussez-le !» C'était plus facile à ordonner qu'à exécuter. La terreur prêtait à Guespin une force énorme. Mais le docteur ayant eu l'idée d'ouvrir le second battant de la porte du salon, le point d'appui manqua au misérable et il tomba, ou plutôt roula, au pied de la table sur laquelle écrivait le juge d'instruction. Il fut debout aussitôt et des yeux cherchaient une issue pour fuir. N'en ayant pas, car les fenêtres aussi bien que la porte étaient encombrées de curieux, il se laissa tomber dans un fauteuil. Ce malheureux offra l'image de la terreur arrivée à son paroxysme. Sur sa face livide se détachaient bleuâtres les marques des coups qu'il avait reçus dans la lutte. Ses lèvres blêmes tremblaient et il remet ses mâchoires dans le vide comme s'il eût cherché un peu de salive pour sa langue ardente. Ses yeux, démesurément agrandis, étaient injectés de sang et exprimaient le plus affreux égarement. Enfin, son corps était secoué de spasmes convulsifs. Si effrayant était ce spectacle que M. le maire d'Orcival pensa qu'il pouvait devenir un enseignement d'une haute portée morale. Il se retourna donc vers la foule en montrant Guespin, et d'un ton tragique, il dit « Voilà le crime !» Les autres personnes, cependant le docteur, le juge d'instruction et le père Plantat, échangeaient des regards surpris. « S'il est coupable, murmurait le vieux juge de paix, comment diable est-il revenu ?» Il fallut un bon moment pour faire retirer la foule. Le brigadier de gendarmerie n'y parvint qu'avec l'aide de ses hommes. Puis il revint se placer près de Guespin, estimant qu'il ne serait pas prudent de le laisser seul avec des gens sans armes, un si dangereux malfaiteur. Hélas, il n'était guère redoutable en ce moment, le misérable. La réaction venait, son énergie surexcitée s'affaissait comme la flamme d'une poignée de paille, ses muscles tendus outre mesure devenaient flasques, et sa prostration ressemblait à l'agonie d'un accès de fièvre cérébrale. Pendant ce temps, le brigadier rendait compte des événements. Quelques domestiques du château et des habitations voisines péroraient devant la grille, racontant les crimes de la nuit et la disparition de Guespin la veille au soir, lorsque tout à coup on l'avait aperçu au bout du chemin, qui arrivait, la démarche chancelante, et chantant à pleine gorge comme un homme ivre. « Était-il vraiment ivre ?» demanda M. Domini. « Oh, ivre perdu, monsieur, répondit le brigadier. « Oh, ce serait donc le vin qui nous l'aurait livré, murmura le juge d'instruction. « Et ainsi tout s'expliquerait. » En apercevant ce scélérat, poursuivit le gendarme pour qui la culpabilité de Crespin ne semblait pas faire l'ombre d'un doute, François, le valet de chambre de feu, monsieur le comte, et le domestique de monsieur le maire, Baptiste, qui se trouvait là, se sont précipités à sa rencontre et l'ont empoigné. Il était si saoul Ayant tout oublié, il croyait qu'on voulait lui faire une farce. La vue de mes hommes l'a dégrisé. À ce moment, une des femmes lui a crié « Brigand, c'est toi qui cette nuit a assassiné le comte et la comtesse !» Oh, aussitôt, il est devenu plus pâle que la mort. Il est resté immobile, béant, comme un sommet, quoi. Puis subitement, il s'est mis à se débattre, si vigoureusement que, sans moi, il s'échappait. Oh, il est fort, le gredin, sans en avoir l'air. Et il n'a rien dit ? Demanda le père Plantat. Pas un mot, monsieur. Il avait les dents si bien serrées par la rage qu'il eût pu, j'en suis sûr, dire seulement « pain ». Enfin, nous le tenons, je l'ai fouillé, et voici ce que j'ai trouvé dans ses poches. Un mouchoir, une serpette, deux petites clés, un chiffon de papier couvert de chiffres et de signes et une adresse du magasin des forges de Vulcain. Mais ce n'est pas tout. » Le brigadier fit une pause, regardant les auditeurs d'un air mystérieux qui préparait son effet. « Ce n'est pas tout. Pendant qu'on le tirait dans la cour, il a essayé de se débarrasser de son porte-monnaie. Moi, j'ouvrais l'œil, heureusement, et j'ai vu le coup à temps. J'ai ramassé le porte-monnaie qui était tombé dans les massifs de fleurs près de la porte, et le voici. Il y a dedans un billet de 100 francs, 3 louis et 7 francs de monnaie. Or, hier, le brigand n'avait pas le sou. « Comment savez-vous cela ? » demanda M. Courtois. « Non, monsieur le maire, il avait emprunté à François, le valet de chambre qui me l'a dit, 25 francs, soi-disant pour payer son écho à la noce. »« Qu'on fasse venir François, » commanda le juge d'instruction, et dès que le valet de chambre parut, « Savez-vous, lui demanda-t-il brusquement, si Gaspin avait de l'argent hier ?»« Oh, il en avait si peu, monsieur, » répondit sans hésiter le domestique, « qui m'a demandé 25 francs dans la journée en me disant que si je ne les lui prêtais pas, il pouvait venir à Nonos n'ayant même pas de quoi se payer le chemin de fer. »« Mais il pouvait avoir des économies, un billet de 100 francs par exemple, qu'il lui répugnait de changer. » François secoua la tête avec un sourire incrédule. « Bon, Gaspin n'est pas homme à avoir des économies, » prononça-t-il. « Les femmes et les cartes lui mangent tout. Pas plus tard que la semaine dernière, le cafetier du Café du Commerce est venu lui faire une scène pour ce qu'il doit et l'a même menacé de s'adresser à monsieur le comte. » Et, s'apercevant de l'effet produit par sa déposition, bien vite le valet de chambre ajouta, en manière de correctif, « Oh, c'est pas que j'en veuille aucunement à Gaspin. J'avais même toujours, jusqu'à aujourd'hui, considéré comme un bon garçon, bien que m'entrôt la gaudriole. Il était peut-être un peu fier, vu son éducation. « Vous pouvez vous retirer, » dit le juge d'instruction, coupant court aux appréciations de M. François. Le valet de chambre sortit. Pendant ce temps, Gaspin, peu à peu, était revenu à lui. Le juge d'instruction, le père Plantat et le maire épiaient curieusement ses impressions sur sa physionomie qu'il ne devait point songer à composer, pendant que le docteur Gendron lui tenait le pouls et comptait ses pulsations. « Le remords et la frayeur du châtiment, » murmura le maire. « L'innocence et l'impossibilité de la démontrer, » répondit à voix basse le père Plantat. Le juge d'instruction recueillit ces deux exclamations, mais il ne les releva pas. Ses convictions n'étaient pas formées, et il ne voulait pas, lui, le représentant de la loi, le ministre du châtiment, laisser par un mot préjuger ses sentiments. « Vous sentez-vous mieux, mon ami ?» demanda le docteur Gendron à Gaspin. Le malheureux fit signe que oui. Puis, après avoir jeté autour de lui les regards anxieux de l'homme qui songe le précipice où il est tombé, il passa les mains sur ses yeux et demanda « à boire ?» On lui apporta un verre d'eau et il le but d'un trait avec une expression de volupté indéfinissable. Alors il se leva. Êtes-vous maintenant en état de me répondre ? Lui demanda le juge. Chancelant d'abord, Gaspin s'était redressé. Il se tenait debout en face du juge, s'appuyant au dossier d'un meuble. Le tremblement nerveux de ses mains diminuait, le sang revenait à ses joues. Tout en répondant, il réparait le désordre de ses vêtements. « Vous savez, commença le juge, les événements de cette nuit. Le comte et la comtesse de Trémorel ont été assassinés. Partis hier avec tous les domestiques du château, vous les avez quittés à la gare de Lyon vers 9 heures, et vous arrivez maintenant seul. Où avez-vous passé la nuit ?» Gaspin baissa la tête et garda le silence. « Ce n'est pas tout, continua le juge. Hier, vous étiez sans argent, le fait est notoire. Un de vos camarades vient de l'affirmer. Aujourd'hui, on retrouve dans votre porte-monnaie une somme de 167 francs. Où avez-vous pris cet argent ? » Les lèvres du malheureux eurent un mouvement comme s'il eût voulu répondre. Une réflexion subite l'arrêta. Il se tut. « Autre chose encore, poursuivit le juge, qu'est-ce que cette carte d'un magasin de quincaillerie qui a été trouvée dans votre poche ?» Gaspin fit un geste désespéré et murmura « Je suis innocent. » « Ah, remarquez, fit vivement le juge d'instruction, que je ne vous ai point accusé encore. Vous saviez que le comte avait reçu dans la journée une somme importante ?» Un sourire amer plissa les lèvres de Gaspin et il répondit « Oh, je sais bien que tout est contre moi. » Le silence était profond dans le salon. Le médecin, le maire et le père Plantat, saisis d'une curiosité passionnée, n'osaient faire un mouvement. C'est qu'il n'est peut-être rien d'émouvant au monde, autant que ces duels sans merci entre la justice et l'homme soupçonné d'un crime. Les questions peuvent sembler insignifiantes, les réponses banales. Questions et réponses enveloppent des sous-entendus terribles. Les moindres gestes, alors les plus rapides mouvements de physionomie, peuvent acquérir une signification profonde. Un fugitif éclair de l'œil dénonce un avantage remporté. Une imperceptible altération de la voix peut être un aveu. Oui, c'est bien un duel qu'un interrogatoire, un premier interrogatoire surtout. Au début, les adversaires se tâtent mentalement, ils s'estiment et s'évaluent. Questions et réponses se croisent mollement avec une sorte d'hésitation, comme le fer de deux adversaires qui ne savent rien de leurs forces respectives, mais la lutte bientôt s'échauffe. En cliquetis des épées et des paroles, les combattants s'animent. L'attaque devient plus pressante, la riposte plus vive. Le sentiment du danger disparaît et à chance égale, l'avantage reste à celui qui garde le mieux son sang-froid. Le sang-froid de M. Domini était désespérant. « Voyons, reprit-il après une pause, où avez-vous passé la nuit ? D'où vous vient votre argent et qu'est-ce que cette adresse ?» s'écria Gaspin avec la rage de l'impuissant, je vous le dirai que vous ne me croiriez pas. Le juge d'instruction allait poser une nouvelle question. Gaspin lui coupa la parole. Non, vous ne me croiriez pas, reprit-il, les yeux étincelants de colère. Est-ce que des hommes comme vous croient un homme comme moi ? J'ai un passé, n'est-ce pas, des antécédents, comme vous dites. Le passé, on n'a que ce mot à vous jeter à la face. Comme si du passé dépendait l'avenir. Eh bien oui, c'est vrai, je suis un débauché, un joueur, un ivrogne, un paresseux, mais après, c'est vrai, j'ai été traduit en police correctionnelle et condamné pour tapage nocturne et attentat aux mœurs. Qu'est-ce que cela prouve ? J'ai perdu ma vie, mais à qui ai-je fait tort, sinon à moi-même ? Mon passé ! Est-ce que je ne l'ai pas assez durement expié ? Gaspin était rentré en pleine possession de soi et trouvait, au service des sensations qui le remuaient, une sorte d'éloquence. Il s'exprimait avec une sauvage énergie bien propre à frapper les auditeurs. « Le pas toujours servi les autres, » poursuivait-il. « Mon père était à l'aise, presque riche. Il avait près de Saumur de vastes jardins, et il passait pour un des plus habiles horticulteurs de Maine-et-Loire. On m'a fait instruire, et quand j'ai eu 16 ans, je suis entré chez les messieurs le roi d'Angers, afin d'y apprendre mon état. Au bout de 4 ans, on me regardait comme un garçon de talent dans la partie. Malheureusement pour moi, mon père, veuve depuis plusieurs années déjà, mourut. Il me laissait pour 100 000 francs au moins de terres excellentes. Je les donnais pour 60 000 francs comptant, et je vins à Paris. J'étais comme fou en ce temps-là. J'avais une fièvre de plaisir que rien ne pouvait calmer, la soif de toutes les jouissances, une santé de fer et de l'argent. Je trouvais Paris étroit pour mes vices, il me semblait que les objets manquaient à mes convoitises. Je me figurais que mes 60 000 francs dureraient éternellement. » Gaspin s'arrêta. 1000 souvenirs de ce temps lui revenaient à la pensée, et bien bas il murmura « Oh, c'était le bon temps !»« Mais 60 000 francs, reprit-il, durèrent 8 ans. Je n'avais plus le sou et je voulais continuer mon genre de vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est vers cette époque que les sergents de ville, une nuit, me ramassèrent. J'en fus quitte pour 3 mois. Oh, vous retrouverez mon dossier à la préfecture de police. Et savez-vous ce qu'il vous dira, ce dossier? Il vous dira qu'en 100 ans de prison, je suis tombé dans cette misère honteuse et abominable de Paris. Dans cette misère qui ne mange pas et qui se saoule, qui n'a pas de souliers et qui s'écoute aux tables des estaminets. Dans cette misère qui traîne à la porte des bals publics de barrières, qui crouille dans les garnis infâmes et qui complote ses vols dans les fours à plâtre. Il vous dira, mon dossier, que j'ai vécu parmi les souteneurs, les filous et les prostituées. Et c'est la vérité. » Le digne maire d'Orcival était consterné. « Juste Dieu, pensait-il, quel audacieux et cynique brigand, et dire qu'on est tous les jours exposé à introduire dans sa maison en qualité de domestique de tels misérables. » Le juge d'instruction, lui, se taisait. Il sentait bien que Gaspin était dans un de ces rares moments où, sous l'empire irrésistible de la passion, un homme s'abandonne et laisse voir jusqu'aux replis les plus profonds de sa pensée et se livre tout entier. « Mais il est une chose, continua le malheureux, que mon dossier ne vous dira pas. Il ne vous dira pas que, dégoûté jusqu'à la tentation du suicide, de cette vie abjecte, j'ai voulu en sortir. Il vous dira rien de mes efforts, de mes tentatives désespérées, de mon repentir, de mes rechutes. C'est un dur fardeau, aller qu'un passé comme le mien. Enfin, j'ai pu reprendre mon état. Je suis habile, on m'a donné de l'ouvrage. J'ai occupé successivement 4 places, jusqu'au jour où, par un de mes anciens patrons, j'ai pu entrer ici. Je m'y trouvais bien. Je mangeais toujours mon mois d'avance, c'est vrai, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Mais demandez si jamais on a eu à se plaindre de moi. » Il est reconnu que parmi les criminels les plus intelligents, ceux qui ont reçu une certaine éducation, enfin, qui ont joui d'une certaine aisance, sont les plus redoutables. À ce titre, Gaspin était éminemment dangereux. Voilà ce que se disaient les auditeurs, pendant qu'épuisé par l'effort qu'il venait de faire, il essuyait son front ruisselant de sueur. M. Daubigny n'avait pas perdu de vue son plan d'attaque. « Tout cela est fort bien, dit-il, mais nous en reviendrons en temps et lieu sur votre confession. Il s'agit pour le moment de donner l'emploi de votre nuit et d'expliquer la provenance de l'argent trouvé en votre possession. » Cette insistance du juge parut exaspérer Gaspin. « Répondit-il, que voulez-vous que je vous dise ? La vérité, vous ne la croirez pas, autant me taire. C'est une fatalité. Je vous préviens, dans votre intérêt, reprit le juge, que si vous persistez à ne pas répondre, les charges qui pèsent sur vous sont telles que je vais être forcé de vous faire arrêter comme prévenu d'assassinat sur la personne du comte et de la comtesse de Trémorel. » Cette menace parut faire sur Gaspin un effet extraordinaire. Deux grosses larmes emplirent ses yeux secs et brillants jusque-là et roulèrent silencieuses le long de ses joues. Son énergie était à bout. Il se laissa tomber à genoux en criant « Grâce, je vous en prie, monsieur, ne me faites pas arrêter. Je vous jure que je suis innocent, je vous le jure. Parlez alors. Vous le voulez ?» fit Gaspin en se relevant, mais changeant de ton subitement. « Non !» s'écria-t-il en tapant du pied dans un accès de rage. « Non, je ne parlerai pas, je ne peux pas. Un seul homme pouvait me sauver, c'est monsieur le comte, et il est mort. Je suis innocent, et cependant, si on ne trouve pas les coupables, je suis perdu. Tout est contre moi, je le sens bien. » « Et maintenant, allez, faites de moi ce que vous voudrez. Ne prononcerai plus un mot. » La résolution de Gaspin, résolution qu'affirmait son regard, ne surprit nullement le juge d'instruction. « Vous réfléchirez, dit-il simplement. Seulement, lorsque vous aurez réfléchi, je n'aurai plus en vos paroles la confiance que j'y aurai en ce moment. Il se peut. » Et le juge scanda ces mots comme pour leur donner une valeur plus forte et faire luire aux yeux du prévenu un espoir de pardon. « Il se peut que vous n'ayez eu à ce crime qu'une part indirecte en ce cas. »« Ni direct ni indirect, » répondit Gaspin, et il ajouta avec violence. « Malheur être innocent et ne pouvoir se défendre. » Puisqu'il en est ainsi, reprit M. Domini, il doit vous être indifférent d'être mis en présence du corps de Mme de Trémorel. C'est sans broncher que le prévenu accueillit cette menace. On le conduisit à la salle où on avait déposé la comtesse. Là, il examina le cadavre d'un œil froid et calme. Il dit seulement : Oh, elle est plus heureuse que moi. Elle est morte, elle ne souffre plus, et moi qui ne suis pas coupable, on m'accuse de l'avoir tuée. » M. Domini tenta encore un effort. « Voyons, Gaspin, dit-il, si d'une manière quelconque vous avez eu connaissance de ce crime, je vous en conjure, dites-le-moi. Si vous connaissez les meurtriers, nommez-les-moi. Tâchez de mériter quelque indulgence par votre franchise, votre repentir. » Gaspin eut le geste résigné des malheureux qui ont pris leur parti. « Par tout ce qu'il y a de plus saint au monde, répondit-il, je suis innocent. Pourtant, je vois bien que si on ne trouve pas les coupables, c'en est fait de moi. » Les convictions de M. Domini se formaient et s'affermissait peu à peu. Une instruction n'est pas une œuvre aussi difficile qu'on pourrait se l'imaginer. Le difficile, le point capital, est de saisir au début, dans un écheveau souvent fort embrouillé, le maître bout de fil, celui qui doit mener à la vérité à travers le dédale de ruses, de réticences et de mensonges du coupable. Ce fil précieux, M. Domini était certain de le tenir. Ayant un des assassins, il savait bien qu'il aurait les autres. Nos prisons où on mange de bonnes soupes, où les lits ont un bon matelas, délie les langues tout aussi bien que les chevalets et les brodequins du Moyen-Âge. Le juge d'instruction remit Gaspin au brigadier de gendarmerie avec l'ordre de ne pas le perdre de vue. Il envoya ensuite chercher le vieux Laripaille. Ce bonhomme n'était pas de ceux qui se troublent. Tant de fois il avait eu maille à partir avec la justice qu'un interrogatoire de plus le touchait médiocrement. Le père Plantat remarqua qu'il semblait bien plus contrarié qu'inquiet. « Cet homme est fort mal noté dans ma commune, » souffla le maire au juge d'instruction. Laripaille entendit la réflexion et sourit. Interrogé par le juge d'instruction, il raconta d'une façon très nette et très claire, fort exacte en même temps, la scène du matin, sa résistance, l'insistance de son fils. Il expliqua les prudentes raisons de leurs mensonges. Là encore, le chapitre des antécédents reparut. Oh, « je vaux mieux que ma réputation, allez, » affirma Laripaille. « Il y a bien des gens qui ne veulent pas en dire autant. J'en connais d'aucun, oh, j'en connais d'aucune, surtout. » Il regardait M. Courtois. « Qui, si je voulais m'habiller ? On voit bien des choses quand on court la nuit. Enfin, suffit. » On essaya de le faire s'expliquer sur ses allusions, en vain. Lorsqu'on lui demanda où et comment il avait passé la nuit, il répondit que, sorti à 10 heures du cabaret, il était allé poser quelques collets dans les bois de Montprévoir, et que vers 1 heure du matin, il était rentré se coucher. « À la preuve, ajouta-t-il, qu'il doit y être encore et que peut-être il y a du gibier de prix. » « Trouverez-vous un témoin pour affirmer que vous êtes rentré à 1 heure ?» demanda le maire, qui pensait à la pendule arrêtée sur 3h20. « Oh, j'en sais ma foi rien, » répondit insoucieusement le vieux maraudeur. « Il est même bien possible que mon fils ne se soit pas réveillé quand je me suis couché. » Et comme le juge d'instruction réfléchissait, « Je devine bien, lui dit-il, que vous allez me mettre en prison jusqu'à ce qu'on ait trouvé les coupables. Si nous étions en hiver, je me plaindrais pas trop. On est bien en prison, il y fait chaud. Mais juste au moment de la chasse, c'est contrariant. Enfin, ce sera une bonne leçon pour Philippe, ça lui apprendra ce qu'il en coûte pour rendre service aux bourgeois. « Assez !» interrompit sévèrement M. Domini. « Connaissez-vous Gaspin ?» Ce nom éteignit brusquement la verve narquoise de Laripaille. Ses petits yeux gris exprimèrent une singulière inquiétude. « Oh, certainement, répondit-il d'un ton très embarrassé, nous avons donc une fois fait une partie de cartes, vous comprenez, en sirotant un Gloria. » L'inquiétude du bonhomme frappa beaucoup les 4 auditeurs. Le père Plantat particulièrement laissa voir une surprise profonde. Le vieux maraudeur était bien trop fin pour ne pas s'apercevoir de l'effet produit. « Ma foi, tant pis !» s'exclama-t-il. « Je vais tout vous dire. Chacun pour soi, n'est-ce pas ? Si Gaspin a fait le coup, ce n'est pas ça qui le rendra plus noir, et moi, je n'en serai pas bien plus mal vu. » « Je connais ce garçon parce qu'il m'a donné à vendre des fraises et des raisins de la serre du comte. Je suppose qu'il les volait, et ce n'est peut-être pas très bien. Nous partagions l'argent que j'en retirais. » Le père Plantat ne put retenir un « ah » de satisfaction qui devait vouloir dire « ah, la bonne heure, je savais bien. » Lorsqu'il avait dit qu'on le mettrait en prison, Laripaille ne s'était pas trompé. Le juge d'instruction maintint son arrestation. C'était au tour de Philippe. Le pauvre garçon était dans un état à faire pitié. Il pleurait à chaudes larmes. « M'accuser d'un si grand crime, moi !» répétait-il. Interrogé, il dit purement et simplement la vérité. s'excusant toutefois d'avoir osé pénétrer dans le parc en franchissant le fossé. Lorsqu'on lui demanda à quelle heure son père était rentré, il répondit qu'il n'en savait rien. Il s'était couché vers 9 heures et n'avait fait qu'un somme jusqu'au matin. Il connaissait Gaspin pour l'avoir vu venir chez eux à diverses reprises. Il n'ignorait pas que son père faisait des affaires avec le jardinier de M. Trémorel, mais il ignorait quelles affaires. Il n'avait pas d'ailleurs parlé à Gaspin 4 fois en tout. Le juge d'instruction ordonna la mise en liberté de Philippe, non qu'il fût absolument convaincu de son innocence, mais parce que si un crime a été commis par plusieurs complices, il est bon de laisser dehors un de ceux qu'on tient. On le surveille et il fait prendre les autres. Cependant, le cadavre du comte ne se retrouvait toujours pas. On avait vainement battu le parc avec un soin extrême, visité les taillis, fouillé les moindres massifs. « On l'aura jeté à l'eau, » insinua le maire. Ce fut l'avis de M. Domini. Des pêcheurs furent mandés et reçurent l'ordre de sonder la Seine en commençant leur recherche un peu au-dessus de l'endroit où on avait retrouvé le corps de la comtesse. Il était alors près de 3 heures. Le père Plantat fit remarquer que personne, très probablement, n'avait rien mangé de la journée. Ne serait-il pas sage de prendre à la hâte quelque nourriture si on voulait poursuivre les investigations jusqu'à la tombée de la nuit? Ce rappel aux exigences triviales de notre pauvre humanité déplut souverainement au sensible maire d'Orcival et même l'humilia quelque peu en sa dignité d'homme et d'administrateur. Cependant, on donna raison au père Plantat et M. Courtois essaya de suivre l'exemple général. Dieu sait pourtant qui n'avait pas le moindre appétit. Et alors, autour de cette table humide encore du vin versé par les assassins, le juge d'instruction, le père Plantat, le médecin et le maire vinrent s'asseoir et prendre à la hâte une collation improvisée. L'escalier avait été consigné, mais le vestibule était resté libre. On y entendait des allées et des venues, des piétinements, des chuchotements étouffés, puis, dominant ce bourdonnement continu, les exclamations et les jurements des gendarmes essayant de contenir la foule. De temps à autre, une tête effarée se glissait le long de la porte de la salle à manger restée entrebâillée. C'était quelque curieux qui, plus hardi que les autres, voulait voir manger les gens de la justice et essayer de surprendre quelques paroles pour les rapporter et s'en faire gloire. Mais les gens de justice, pour parler comme à Orcival, se gardaient bien de rien dire de grave, portes ouvertes, en présence d'un domestique circulant autour de la table pour le service. Très ému de ce crime affreux, inquiet du mystère qui recouvrait encore cette affaire, ils renfermaient et dissimulaient leurs impressions. Chacun à part soi étudiait la probabilité de ses soupçons et gardait sa pensée intime. Tout en mangeant, M. Domini mettait de l'ordre dans ses notes, numérotant les feuilles de papier et marquant d'une croix certaines réponses des inculpés particulièrement significatives et qui devaient être comme les bases de son rapport. Il était peut-être le moins tourmenté des 4 convives de ce lugubre repas. Ce crime ne lui semblait pas de ceux qui font passer des nuits blanches au juge d'instruction. Il en voyait nettement le mobile, ce qui est énorme, et il tenait la Ripaille et Gaspin, 2 coupables, ou tout au moins complices. Assis l'un près de l'autre, le père Plantat et le docteur Gendron s'entretenaient de la maladie qui avait enlevé Sauvresy. M. Courtois, lui, prêtait l'oreille au bruit du dehors. La nouvelle du double meurtre se répandait dans le pays et la foule croissait de minute en minute. Elle encombrait la cour et de plus en plus devenait audacieuse. La gendarmerie était débordée. C'était ou jamais pour le maire d'Orcival le moment de se montrer. « Bon, je vais aller faire entendre raison à ces gens, dit-il, et les engager à se retirer. » Et aussitôt, s'essuyant la bouche, il jeta sur la table sa serviette roulée et sortit. Il était temps. On n'écoutait déjà plus les injonctions du brigadier. Quelques curieux, plus enragés que les autres, avaient tourné la position et s'efforçaient d'ouvrir la porte donnant sur le jardin. La présence du maire n'intimida peut-être pas beaucoup la foule, mais elle doubla l'énergie des gendarmes. Le vestibule fut évacué. Aussi, que de murmures contre cet acte d'autorité. Quelle superbe occasion de discours ! M. Courtois ne la manqua pas. Il supposa que son éloquence, douée de la vertu des douches d'eau glacée, calmerait cette effervescence insolite de ces sages administrés. Il s'avança donc sur le perron, la main gauche passée dans l'ouverture de son gilet, gesticulant de la main droite, dans cette attitude fière et impassible que le statuaire prête aux grands orateurs. C'est ainsi qu'il se pose devant son conseil, lorsque, trouvant une résistance inattendue, il entreprend de faire triompher sa volonté et de ramener les récalcitrants. Tel, dans l'histoire de la Restauration, on représente Manuel au moment du fameux « Empoignez-moi cet homme-là !» Son discours arrivait par bribes jusqu'à la salle à manger. Suivant qu'il se tournait de droite ou de gauche, sa voix était claire ou distincte ou bien se perdait dans l'espace. Il disait « Messieurs et chers administrés, un crime inouï dans les fastes d'Orcival vient d'ensanglanter notre paisible et honnête commune. Je m'associe à votre douleur. Je comprends donc et je m'explique votre fiévreuse émotion, votre indignation légitime. Autant que vous, mes amis, plus que vous, je chérissais et j'estimais ce noble comte de Trémorel et sa vertueuse épouse. L'un et l'autre, ils ont été la providence de notre contrée. Nous les pleurons ensemble. » « Je vous assure, disait le docteur Gendreau au père Plantat, que les symptômes que vous me dites ne sont pas rares à la suite des pleurésies. On croit avoir triomphé de la maladie, on rengaine la lancette et on se trompe. De l'état aigu, l'inflammation passe à l'état chronique et se complique de pneumonie et de phtisie tuberculeuse. « Mais rien ne justifie, poursuivait le maire, une curiosité qui, par ses manifestations inopportunes et bruyantes, entrave l'action de la justice, et il est, dans tous les cas, une atteinte punissable à la majesté de la loi. Pourquoi ce rassemblement inusité? Pourquoi ces cris dans les groupes? Pourquoi ces rumeurs, ces chuchotements, ces suppositions prématurées? Il y a eu, disait le père Plantat, deux ou trois consultations qui n'ont pas donné de résultats favorables. Sauvresy accusait des souffrances tout à fait étranges et bizarres. Il se plaignait de douleurs, si invraisemblables, si absurdes, passez-moi le mot, qu'il déroutait les conjectures des médecins les plus expérimentés. N'était-ce pas R. de Paris qui le voyait? Précisément, il venait tous les jours et souvent restait couché au château. Maintes fois, je l'ai vu remonter soucieux la grande rue du Bourg. Il allait surveiller la préparation de ses ordonnances chez notre pharmacien. Sachez donc, criait M. Courtois, sachez modérer votre juste courroux. Soyez calme, soyez digne. Oh, certainement, poursuivait le docteur Gendron, votre pharmacien est un homme intelligent, mais vous avez à Orcival même un garçon qui lui donne joliment le pion. C'est un gaillard qui fait le commerce des simples et qui a su gagner de l'argent, hein, certain Reblot. Ah, Reblot, le rebouteur, juste. Je le soupçonne même de donner des consultations et de faire de la pharmacie à huis clos. Il est fort intelligent. C'est moi, du reste, qui ai fait son éducation. Il a été pendant plus de 5 ans mon garçon de laboratoire, et encore maintenant, quand j'ai quelques manipulations délicates. Le docteur s'arrêta, frappé de l'altération des traits de l'impassible père Plantat. « Eh, cher ami, demanda-t-il, qu'est-ce qui vous prend? Seriez-vous incommodé ? » Le juge d'instruction abandonna ses paperasses pour regarder. « Ah, en effet, dit-il, monsieur le juge de paix, et d'une pâleur. » Mais déjà le père Plantin avait repris sa physionomie habituelle. « Oh, ce n'est rien, répondit-il, absolument rien. Avec mon maudit estomac, dès que je change l'heure de mes repas. » Arrivant à la péroraison de sa harangue, M. Courtois enflait la voix et abusait vraiment de ses moyens. « Regagnez donc, disait-il, vos paisibles demeures. Retournez à vos occupations, reprenez vos travaux. Soyez sans crainte, la loi vous protège. » Déjà, la justice a commencé son œuvre. Deux des auteurs de l'exécrable forfait sont en son pouvoir et nous sommes sur la trace de leurs complices. De tous les domestiques actuellement au château, remarquait le père Plantard, il n'en est pas un seul qui ait connu Sauvresy. Peu à peu, toute la maison a été renouvelée. Il est de fait, répondait le docteur, que la vue d'ancien serviteur n'eût pu qu'être fort désagréable à M. de Trémorel. Il fut interrompu par le maire qui rentrait, l'œil brillant, le visage animé, s'essuyant le front. « J'ai fait comprendre à tous ces gens l'indécence de leur curiosité, dit-il. Tous se sont retirés. On voulait, m'a dit le brigadier, faire un mauvais parti à Philippe Berthaud. L'opinion publique ne s'égare guère. » Il se retourna, entendant la porte s'ouvrir, et se trouva face à face avec un homme dont on ne pouvait guère voir la figure, tant il s'inclinait profondément, les coudes en dehors, son chapeau appuyé fortement contre sa poitrine. « Que voulez-vous ? » lui demanda durement M. Courtois. « De quel droit osez-vous pénétrer ici ? Qui êtes-vous ? » L'homme se redressa. « Je suis M. Lecoq, répondit-il, avec le plus gracieux des sourires. » Et, voyant que ce nom n'apprenait rien à personne, il ajouta « M. Lecoq de la Sûreté, envoyé par la préfecture de police, sur demande télégraphiée pour l'affaire en question. » Cette déclaration surprit considérablement tous les auditeurs, même le juge d'instruction. Il est entendu en France que chaque État a son extérieur particulier et comme des insignes qui le dénoncent au premier coup d'œil. Toute profession a son type de convention et quand Sa Majesté l'opinion a adopté un type, elle ne veut pas admettre qu'il soit possible de s'en écarter. Qu'est-ce qu'un médecin ? C'est un homme grave, tout de noir habillé et cravaté de blanc. Un monsieur à gros ventre, battu par des breloques d'or, ne peut être qu'un banquier. Chacun sait que l'artiste est un joyeux vivant, portant chapeau pointu, veste de velours et de grandes manchettes. En vertu de cette loi, l'employé de la rue de Jérusalem doit avoir l'œil plein de traîtrise, quelque chose de louche dans toute sa personne, l'air crasseux et des bijoux en faux. Le plus obtus des boutiquiers est persuadé qu'il flaire à 20 pas un agent de police. Un grand homme à moustache et à feutre luisant, le cou emprisonné dans un col de crin, vêtu d'une redingote noire râpée, scrupuleusement boutonnée, sur une absence complète de linge. Tel est le type. Or, à ce compte, M. Lecoq, entrant dans la salle à manger de Valfeuilly, n'avait certes pas l'air d'un agent de police. Il est vrai que M. Lecoq a l'air qu'il lui plaît d'avoir. Ses amis assurent bien qu'il a une physionomie à lui, qui est sienne, qu'il reprend habile quand il rentre chez lui et qu'il garde, tant qu'il est seul, au coin de son feu, les pieds dans ses pantoufles. Mais le fait n'est pas bien prouvé. Ce qui est sûr, c'est que son masque mobile se prête à des métamorphoses étranges, qu'il pétrit, pour ainsi dire, son visage à son gré, comme le sculpteur pétrit la cire à modeler. En lui, il change tout, même le regard, que ne parvint jamais à changer Gévrol, son maître et son rival. Ainsi, insista le juge d'instruction, « c'est vous que M. le préfet de police m'envoie pour le cas où certaines investigations seraient nécessaires. » Moi-même, monsieur, répondit le coq, bien à votre service. Non, il ne payait pas de mine, l'employé de monsieur le préfet de police, et l'insistance de monsieur Domini était excusable. Monsieur le coq avait arboré ce jour-là de jolis cheveux plats de cette couleur indécise qu'on appelle le blond de Paris, partagé sur le côté par une raie et coquettement prétentieuse. Des favoris de la nuance des cheveux encadraient une face blême, bouffie de mauvaise graisse. Ses gros yeux à fleur de tête semblaient figés dans leur bordure rouge. Un sourire candide s'épanouissait sur ses lèvres épaisses, qui, en s'entr'ouvrant, découvraient une rangée de longues dents jaunes. Sa physionomie, d'ailleurs, n'exprimait rien de précis. C'était un mélange à doses à peu près égales de timidité, de suffisance et de contentement. Impossible d'accorder la moindre intelligence au porteur d'une telle figure. Involontairement, après l'avoir regardé, on cherchait le goitre. Les merciers au détail, qui, après avoir volé 30 ans sur leur fils sur leurs aiguilles, se retirent avec 1 800 livres de rente, doivent avoir cette tête inoffensive. Son costume était aussi terne que sa personne. Sa redingote ressemblait à toutes les redingotes, son pantalon à tous les pantalons. Un cordon de crin, du même blond que ses favoris, retenait la grosse montre d'argent qui gonflait la poche gauche de son gilet. Il manœuvrait, tout en causant, une bonbonnière de corde transparente, pleine de petits carrés de pâte, réglisse, guimauve, jujube, et ornée d'un portrait de femme très laide et très bien mise. Le portrait de la défunte, sans doute. Et selon les hasards de la conversation, suivant qu'il était satisfait ou mécontent, monsieur Lecoq gobait un carré de pâte ou adressait au portrait un regard qui était tout un poème. Ayant longuement détaillé l'homme, le juge d'instruction haussa les épaules. « Enfin, dit monsieur Domini, et cet enfin répondait à sa pensée intime, nous allons, puisque vous voici, vous expliquer ce dont il s'agit. »« Oh, inutile, répondit monsieur Lecoq avec un petit air suffisant, parfaitement inutile. » Il est cependant indispensable que vous sachiez quoi, ce que c'est monsieur le juge d'instruction, interrompit l'agent de la sûreté, je le sais déjà. Nous disons assassinat, ayant le vol pour mobile, et nous partons de là. Nous avons ensuite l'escalade, le bruit de clôture, les appartements bouleversés. Le cadavre de la comtesse a été trouvé, mais le corps du comte est introuvable. Quoi encore? Larry Paille est arrêté, c'est un mauvais drôle, en tout état de cause il mérite un peu de prison. Et Guespin est revenu ivre. Bon, il a de rudes charges contre lui, ce Guespin. Oh, ses antécédents sont déplorables. On ne sait où il a passé la nuit, il refuse de répondre. Il ne fournit pas d'alibi. C'est grave, très grave. Le père Plantat examinait le doux agent avec un visible plaisir. Les autres auditeurs ne dissimulaient pas leur surprise. « Mais qui donc vous a renseigné ?» demanda le juge d'instruction. « Hé hé !» répondit monsieur Lecoq. « Tout le monde un peu. Mais où ?»« Ben ici. Je suis arrivé depuis plus de 2 heures déjà. J'ai même entendu le discours de monsieur le maire. » Et satisfait de l'effet produit, M. Lecoq avala un carré de pâte. « Comment ? » fit M. Domini d'un ton mécontent. « Vous ne savez donc pas que je vous attendais ?»« Pardon, » répondit l'agent de la sûreté, « j'espère pourtant que M. le juge voudra bien m'entendre. C'est que l'étude du terrain est indispensable. Il faut voir, dresser ses batteries. » Je tiens à recueillir les bruits publics, l'opinion, comme on dit, pour m'en défier. Tout cela, prononça sévèrement M. Daubigny, ne justifie pas votre retard. M. Lecoq eut un tendre regard pour le portrait. « Monsieur le juge n'a qu'à s'informer rue de Jérusalem, répondit-il. On lui dira que je sais mon métier. L'important pour bien faire une enquête est de n'être point connu. La police, bon, c'est bête comme tout, est mal vue. Maintenant qu'on sait qui je suis et pourquoi je viens, je puis sortir, on ne me dira plus rien. Ou si j'interroge, on me répondra mille mensonges, on se défiera de moi, on aura des réticences. » « C'est assez juste, » objecta M. Planta venant au secours de l'agent de la Sûreté. « Donc, » poursuivit M. Lecoq, « quand on m'a dit là-bas, c'est en province, j'ai pris ma tête de province. J'arrive et tout le monde, en me voyant, se dit, « Oh, voilà un homme bien curieux, mais pas méchant. Alors, je me glisse, je me faufile, j'écoute, je parle. » Je fais parler, j'interroge, on me répond à cœur ouvert, je me renseigne, je recueille des indications, on ne se gêne pas avec moi. Ils sont charmants, les gens d'Orcival. Je me suis déjà fait plusieurs amis et on m'a invité à dîner pour ce soir. Monsieur Daubigny n'aime pas la police et ne s'en cache guère. Il subit sa collaboration plutôt qu'il ne l'accepte uniquement parce qu'il ne peut s'en passer. Dans sa droiture, il condamne les moyens qu'elle est parfois forcée d'employer tout en reconnaissant la nécessité de ces mêmes moyens. En écoutant M. Lecoq, il ne pouvait s'empêcher de l'approuver, et cependant il le regardait d'un œil qui n'était rien moins qu'amical. « Puisque vous savez tant de choses, lui dit-il sèchement, nous allons procéder à l'examen du théâtre du crime. » « Je suis aux ordres de monsieur le juge d'instruction, » répondit laconiquement l'agent de la Sûreté. Et comme tout le monde se levait, il profita du mouvement pour s'approcher du père Planta et lui tendre sa bonbonnière. « Monsieur le juge de paix, en use-t-il ? » Le père Planta ne crut pas devoir lui refuser. Il avala un morceau de jujube et la sérénité reparut sur le front de l'agent de la Sûreté. Il lui faut, comme à tous les grands comédiens, un public sympathique, et vaguement il sentait qu'on allait travailler devant un amateur. Monsieur Lecoq s'engagea le premier dans l'escalier, et tout d'abord les taches de sang lui sautèrent aux yeux. « Oh ! » faisait-il d'un air révolté à chaque tache nouvelle, « oh, oh, les malheureux !» M. Courtois fut très touché de rencontrer cette sensibilité chez un agent de police. Il pensait que cette épithète de commisération s'appliquait aux victimes. Il se trompait, car M. Lecoq, tout en montant, continuait. « Les malheureux, on ne salit pas tout ainsi dans une maison, ou du moins on essuie. On prend des précautions, que diable !» Arrivé au premier étage, à la porte du boudoir précédant la chambre à coucher, l'agent de la Sûreté s'arrêta, étudiant bien, avant d'y pénétrer, la disposition de l'appartement. Ayant bien vu ce qu'il voulait voir, il entra en disant « Allons, oh, je n'ai pas affaire à de mes pratiques. »« Mais il me semble, remarqua le juge d'instruction, que nous avons déjà des éléments d'instruction qui doivent singulièrement féliciter votre tâche. Il est clair que Gaspin, s'il n'est pas complice du crime, en a eu du moins la connaissance. » M. Lecoq eut un coup d'œil pour le portrait de la bonbonnière. C'était plus qu'un regard, c'était une confidence. Évidemment, il disait à la chère défunte ce qu'il n'osait dire tout haut. Oh, « Je sais bien, » reprit-il, « Gaspin est terriblement compromis, mais pourquoi ne veut-il pas dire où il a passé la nuit ? D'un autre côté, il a contre lui l'opinion publique, et alors moi, naturellement, je me défie. » L'agent de la Sûreté se tenait seul au milieu de la chambre. Les autres personnes, sur sa prière, étaient restées sur le seuil. et, promenant autour de lui son regard terne, il cherchait une signification à l'horrible désordre. « Imbécile !» disait-il d'une voix irritée, double brute. « Non, vrai, on ne travaille pas de cette façon. Ce n'est pas une raison parce qu'on tue les gens afin de les voler, de tout casser chez eux. On ne défonce pas les meubles, que diable! On porte avec soi des rossignols, jolis rossignols, qui ne font aucun bruit, mais qui font d'excellentes besognes. Oh, maladroit, idiot, ne dirait-on pas ?» Il s'arrêta, bouche béante. « Hé !» reprit-il. « Pas si maladroit, peut-être. » Les témoins de cette scène se tenaient immobiles à l'entrée, suivant avec un intérêt mêlé de surprise les mouvements, il faudrait presque dire les exercices, de Monsieur Lecoq. Agenouillé sur le tapis, il promenait sa main à plat sur le tissu épais, au milieu des morceaux de porcelaine. « C'est humide, très humide, tout le thé n'était pas bu, il s'en faut, quand on a cassé la porcelaine. » « Il pouvait rester beaucoup de thé dans la théière, » observa le père Plantat. « Oh, je le sais, » répondit M. Lecoq, « et c'est justement ce que j'étais en train de me dire. De telle sorte que cette humidité ne suffit pas pour nous donner le moment précis du crime. » « Mais la pendule nous le donne !» s'écria M. Courtois, « et très exactement même !» En effet, approuva M. Domini, M. le maire, dans son procès-verbal, explique fort bien que dans la chute, le mouvement s'est arrêté. « Eh bien, dit le père Plantat, c'est justement l'heure de cette pendule qui m'a frappé. Elle marque 3h20, et nous savons que la comtesse était complètement habillée comme dans le milieu du jour quand on l'a frappé. Était-elle donc encore debout, prenant une tasse de thé à 3h du matin? C'est peu probable. Et moi aussi, reprit l'agent de la sûreté, j'ai été frappé de cette circonstance, et c'est pour cela que tout à l'heure je me suis écrié « Pas si bête !» Au surplus, nous allons bien voir. Aussitôt, avec des précautions infinies, il releva la pendule et la replaça sur la tablette de la cheminée, s'appliquant à la poser bien d'aplomb. Les aiguilles étaient toujours arrêtées sur 3h20. 3h20, murmurait M. Lecoq, tout en glissant une petite cale sous le socle. Ce n'est pas à cette heure-là, que diable, qu'on prend le thé. C'est encore moins à cette heure-là qu'en plein mois de juillet, au lever du jour, on assassine les gens. Il ouvrit, non sans peine, le caisson du cadran et poussa la grande aiguille jusqu'à la demie de 3h. La pendule sonna 11 coups. « À la bonne heure !» s'écria M. Lecoq triomphant. « Voilà la vérité !» Et tirant de sa poche la bonbonnière à portrait, il goba un carré de guimauve et dit « Oh, farceur !» La simplicité de ce moyen de contrôle auquel personne n'avait songé ne laissait pas de surprendre les spectateurs. Monsieur Courtois particulièrement était émerveillé. « Voilà, dit-il au docteur, un drôle qui ne manque pas de moyens dans sa partie. » « Ergo, reprenait M. Lecoq, qui sait le latin, nous avons en face de nous, non plus des brutes, comme j'ai failli le croire d'abord, mais des gredins qui y voient plus loin que le bout de leur couteau. Ils ont mal calculé leur affaire, c'est une justice à leur ordre, mais enfin, ils ont calculé. L'indication est précise, ils ont eu l'intention d'égarer l'instruction en la trompant sur l'heure. « Je ne vois pas clairement leur but, hein, » insinua M. Courtois. Ah, « Il est cependant bien visible, » répondit M. Domini. « N'était-il pas de l'intérêt des assassins de faire croire que le crime a été copié après le dernier passage du train se dirigeant sur Paris ? quittant ses camarades à 9 heures à la gare de Lyon, Gaspin pouvait être ici à 10 heures, assassiner ses maîtres, s'emparer de l'argent qu'il savait être en la possession du comte de Trémorel et regagner Paris par le dernier train. Ces suppositions sont très aimables, objecta le père Plantin, mais alors comment Gaspin n'est-il pas allé rejoindre ses camarades chez Vepler au Batignolles ? Par là, jusqu'à un certain point, il se ménageait une espèce d'alibi. Dès le commencement de l'enquête, le docteur Gendron s'était assis sur l'unique chaise intacte de la chambre, réfléchissant au subit malaise qui avait fait pâlir le père Plantin lorsqu'on avait parlé de Roblot le rebouteux. Les explications du juge d'instruction le tirèrent de ses méditations. Il se leva. « Il est autre chose encore, dit-il. Cette avance de l'heure, très utile à Gaspin, peut devenir accablante pour la ripaille, son complice. » Mais, répondit M. Domini, il se peut fort bien que la ripaille n'ait point été consultée. Pour ce qui est de Gaspin, il avait probablement de bonnes raisons pour ne point aller à la noce. Son trouble après un pareil forfait lui aurait nui plus encore que son absence. Monsieur Lecoq, lui, ne jugea pas à propos de se prononcer encore. Comme un médecin au lit du malade, il veut être sûr de son diagnostic. Il était retourné à la cheminée et de nouveau faisait marcher les aiguilles de la pendule. Successivement, elle sonna la demie de 11 heures, puis minuit et demi et 1 heure. Tout en se livrant à cette occupation, il grommelait « Me prends-tu, brise-bangue, occasion ? On est malin, ce qu'on croit, mais on ne pense pas à tout. On donne un coup de pouce aux aiguilles, mais on ne pense pas à mettre la sonnerie d'accord. Survient alors un bonhomme de la sûreté, un vieux singe, qui connaît les grimaces, et la mèche est éventée. » Monsieur Domini et le père Plantin gardaient le silence. Monsieur Lecoq revint vers eux. « Monsieur le juge, dit-il, peut-être maintenant certain que le coup a été fait avant 10 heures et demie. » À moins, observa le père Plantin, que la sonnerie ne soit détraquée, ce qui arrive quelquefois. Oh, ce qui arrive souvent, appuya M. Courtois, à telle enseigne que la pendule de mon salon est dans cet état depuis je ne sais combien de temps. M. Lecoq réfléchissait. Il se peut, reprit-il, que M. le juge de paix ait raison. J'ai pour moi la probabilité, mais la probabilité ne suffit pas au début d'une affaire, il faut la certitude. Il nous reste par bonheur un moyen de vérification. Nous avons le lit. Je parie qu'il est défait. Et, s'adressant au maire, « J'aurais besoin, monsieur, d'un domestique pour me donner un coup de main. » Oh, inutile, dit le père Plantin, je vais vous aider, moi, ce sera plus vite fait. Aussitôt, à eux deux, ils enlevèrent le ciel de lit et le déposèrent à terre, enlevant du même coup les rideaux. « fit Monsieur Lecoq, avais-je pas raison ?»« C'est vrai, dit Monsieur Domini un peu surpris. Oh, oui, le lit est défait. »« Défait, oui, répondit l'agent de la sûreté, mais on ne s'y est pas couché. Bon, »« Cependant, voulut objecter Monsieur Courtois, je suis sûr de ce que j'avance, interrompit l'homme de la police. On a ouvert ce lit, c'est vrai. » On s'est peut-être roulé dessus, on a chiffonné les oreillers, froissé les couvertures, fripé les draps, mais on a pu lui donner pour un œil exercé l'apparence d'un lit dans lequel 2 personnes ont dormi. Défaire un lit est aussi difficile, plus difficile peut-être que de le refaire. Pour le refaire, il n'est pas indispensable de retirer draps et couvertures et de retourner les matelas, mais pour le défaire, il faut absolument se coucher dedans et y avoir l'air chaud. Un lit est un de ces témoins terribles qui ne trompent jamais et contre lesquels on ne peut s'inscrire en faux. On ne s'est pas couché dans celui-ci.
Je sais bien, remarqua le père Plantin, que la comtesse était habillée, mais le comte pouvait s'être couché le premier.
Le juge d'instruction, le médecin et le maire s'étaient approchés.
Non, monsieur, répondit monsieur Lecoq, et je puis vous le prouver.
La démonstration est facile, d'ailleurs, et après l'avoir entendu, un enfant de 10 ans ne se laisserait pas prendre à un désordre factice tel que celui-ci. Il ramena doucement les couvertures et le drap du dessus au milieu du lit, tout en poursuivant. Ses oreillers sont très froissés, tous deux, n'est-ce pas? Mais voyez en dessous le traversin, il est intact. Vous n'y retrouvez aucune de ces plis que laissent le poids de la tête et le mouvement des bras. Ce n'est pas tout. Regardez le lit, à partir du milieu jusqu'à l'extrémité. Comme les couvertures ont été bordées avec soin, les deux draps se touchent bien partout. Glissez la main comme moi, et il glissait un de ses bras, et vous sentirez une résistance qui n'existerait pas si les jambes s'étaient allongées à cet endroit. Or, M. de Trémorel était de taille à occuper le lit dans toute sa longueur. Si claire était la démonstration de M. Lecoq, si palpables étaient ses preuves, qu'il n'y avait pas à douter.
« Ce n'est rien encore, continuait-il, passons au second matelas. On songe rarement au second matelas, quand pour des raisons quelconques on défait un lit ou qu'on cherche à en réparer le désordre. Examinez celui-ci. » Il souleva le premier matelas et on vit en effet que la toile de l'autre était parfaitement tendue, on n'y découvrait aucun affaissement.
« Ah, le second matelas !» murmura M. Lecoq. Et son nez pétilla, pour ainsi dire, au souvenir sans doute de quelque bonne histoire.
« Il me paraît prouvé, monsieur le juge d'instruction, que M. de Trémorel n'était pas couché. »
De plus, ajouta le docteur Gendron, si on l'eût assassiné dans son lit, ses vêtements seraient restés sur quelques meubles.
Sans compter, fit négligemment monsieur Lecoq, qu'on retrouverait sur les draps une goutte au moins de sang. Décidément, ces malfaiteurs-là ne sont pas forts.
Depuis un moment, les yeux du père Plantin cherchaient ceux du juge d'instruction, et lorsque leurs regards à la fin se rencontrèrent,
ce qui me paraît surprenant à moi, dit le vieux juge de paix, donnant par l'accentuation une valeur particulière à chaque mot, c'est qu'on soit parvenu à tuer chez lui, autrement que pendant son sommeil, un homme jeune et vigoureux comme l'était le comte Hector.
Et dans une maison pleine d'armes, appuya le docteur Gendron, car le cabinet du comte est entièrement tapissé de fusils de couteaux de chasse. C'est un véritable arsenal.
Hélas, soupira le bon monsieur Courtois, nous connaissons de pires catastrophes. L'audace des malfaiteurs croît en raison des convoitises de bien-être, de dépenses, de luxe, des classes inférieures dans les grands centres. Il n'est pas de semaine où les journaux... Il dut s'arrêter, non sans un vif mécontentement. On ne l'écoutait pas. On écoutait le père Plantin, qu'il n'avait jamais vu si bavard et qui poursuivait.
Le bouleversement de la maison vous paraît insensé, eh bien, je suis surpris qu'il ne soit pas plus affreux encore.
Je suis autant dire un vieillard, je n'ai plus l'énergie physique d'un homme de 35 ans. Et pourtant, il me semble que si des assassins pénétraient chez moi lorsque je suis encore debout, ils n'auraient pas raison de moi. Je ne sais ce que je ferais, je serais tué probablement, mais certainement je réussirais à donner l'éveil. Je me défendrai, je crierai, j'ouvrirai les fenêtres, je mettrai le feu à la maison.
Qu'eussiez-vous dit, justiciable d'Orcival, s'il vous eût été donné de voir l'animation, l'emportement
de votre impassible juge de paix. Ajoutons, insista le docteur, qu'éveillé, il est difficile d'être surpris. Toujours quelque bruit insolite prévient. C'est une porte qui crie en tournant sur ses gonds, c'est une des marches de l'escalier qui craque. Enfin, si habile que soit un meurtrier, il ne foudroie pas sa victime. Il se peut, insinua M. Courtois, qu'on se soit servi d'armes à feu. Cela s'est vu. Vous êtes bien tranquillement assis dans votre chambre. On est en été, vos fenêtres sont ouvertes. Vous causez avec votre femme tout en prenant une tasse de thé. Au dehors, les malfaiteurs se font la courte échelle. L'un d'eux arrive à la hauteur de l'appui de la fenêtre. Il vous ajuste à son aise. Il presse la détente. Le coup part. Et, continua le docteur, tout le voisinage réveillé à court. Oh, permettez, riposta M. Courtois. À la ville, dans une cité populeuse, oui, mais là, au milieu d'un vaste parc, non. Songez, docteur, à l'isolement de cette habitation. La plus voisine des maisons habitées est celle de Madame la Comtesse de Ladascol, et encore est-elle distante de plus de 500 mètres. Et par-dessus le marché, environné de grands arbres qui interceptent le son et s'opposent à sa propagation. Dans ton expérience, je vais, si vous le voulez, tirer un coup de pistolet ici, dans cette chambre, et je parie que vous n'entendrez pas la détonation dans le chemin. Le jour peut-être, mais la nuit. Si M. Courtois causait si longtemps, c'est que ses auditeurs observaient attentivement le juge d'instruction. Enfin, conclut M. Domini, si contre tout espoir Gaspard ne se décide pas à parler ce soir ou demain, le cadavre du comte nous donnera le mot de l'énigme. Oui, répondit le père Plantin, oui, si on le retrouve. Pendant cette discussion assez longue, Monsieur Lecoq avait continué ses investigations, soulevant les meubles, étudiant les fractures, interrogeant les moindres débris, comme s'ils eussent pu lui apprendre la vérité. Parfois, il sortait d'une trousse, renfermant une loupe et divers instruments de forme bizarre, une tige d'acier recourbée vers le bout, qu'il introduisait et faisait jouer dans les serrures. Sur le tapis, il ramassa plusieurs clés, et sur un séchoir, il trouva une serviette qui devait lui offrir quelque chose de remarquable, car il la mit de côté. Il allait et venait de la chambre à coucher au cabinet du comte, sans perdre toutefois un mot de ce qui se disait, faisant bon profit de toutes les observations, recueillant et notant bien dans sa mémoire moins les phrases elles-mêmes que les intonations diverses qui les accentuaient. C'est que dans une instruction comme celle du crime d'Orcival, lorsque plusieurs délégués de la justice se trouvent en présence, ils se tiennent sur la réserve. Ils se savent tous presque également expérimentés, fins, perspicaces, pareillement intéressés à découvrir la vérité, peu disposés par habitude à se payer d'apparences trompeuses, difficiles à surprendre, et la circonspection naturelle de chacun d'eux s'augmente de l'estime qu'il a pour la sagacité et la pénétration des autres. Il se peut que chacun d'eux donne aux faits révélés par l'enquête une interprétation différente. Il se peut que chacun d'eux ait sur le fond même de l'affaire un sentiment opposé. Un observateur superficiel ne s'apercevrait pas de ces divergences. Tout en dissimulant son intime pensée, chacun cherche à pénétrer celle du voisin et s'efforce, si elle est opposée, de ramener cet adversaire à son opinion, non en la lui découvrant franchement et sans embâge, mais en appelant son attention sur les mots graves ou futiles qui l'ont fixé. L'énorme portée d'un seul mot justifie cette hésitation. Les hommes qui ont entre les mains la liberté et la vie des autres hommes,
qui d'un trait de plume peuvent briser une existence, sentent bien plus durement qu'on ne croit le fardeau de leur responsabilité. Et sentir ce fardeau partagé leur procure un ineffable soulagement. Voilà pour quelle raison personne n'ose prendre l'initiative ni s'expliquer clairement. Voilà pourquoi chacun attend l'émission positive d'une opinion pour l'adopter et l'approuver ou pour la combattre. Les interlocuteurs échangent donc bien moins des affirmations que des propositions. C'est par insinuation qu'on procède. De là des phrases banales, des suppositions presque ridicules, des apartés qui sont comme une provocation à une explication. De là aussi la presque impossibilité de donner la physionomie exacte et réelle d'une instruction difficile. Ainsi, dans cette affaire, le juge d'instruction et le père Plantin étaient loin d'être du même avis. Ils le savaient avant d'avoir échangé une parole. Mais M. Domini, dont l'opinion reposait sur des faits matériels, sur des circonstances palpables et pour lui hors de toute discussion, était peu disposé à provoquer la contradiction. À quoi bon ? D'un autre côté, le père Plantin, dont le système semblait reposer uniquement sur des impressions, sur une série de déductions plus ou moins logiques, ne pouvait s'expliquer clairement sans une invitation positive et pressante. Son dernier mot, souligné avec affectation, n'ayant pas été relevé, il jugea qu'il s'était assez avancé, trop peut-être, aussi s'empressa-t-il, pour détourner la conversation, de s'adresser à l'employé de la préfecture de police. « Eh bien, monsieur Lecoq, demanda-t-il, avez-vous recueilli quelques indices nouveaux ?» Monsieur Lecoq, en ce moment, regardait avec une persévérante attention un grand portrait de monsieur le comte Hector de Trémorel, suspendu en face du lit. Sur l'interpellation du père Plantin, il se retourna. « Oh, je n'ai rien trouvé de décisif, répondit-il, mais je n'ai rien trouvé non plus qui dérange mes prévisions. Cependant, il n'acheva pas, peut-être lui aussi, reculait-il devant sa part de responsabilité. « Quoi ?» insista durement M. Domini. « Je voulais dire, reprit M. Lecoq, que je ne tiens pas parfaitement mon affaire. J'ai bien ma lanterne et même une chandelle dans ma lanterne. Il ne me manque plus qu'une allumette. Soyez convenable, je vous prie, dit sévèrement le juge d'instruction. Eh bien, continua M. Lecoq d'un air, d'un ton trop humble pour n'être pas joué, j'hésite encore. J'ai besoin d'être aidé. Par exemple, si monsieur le docteur daignait prendre la peine de procéder à l'examen du cadavre de madame la comtesse de Trémorel, il me rendrait un grand service. J'allais précisément vous adresser cette prière, mon cher docteur, dit monsieur Domini à monsieur Gendron. Volontiers, répondit le vieux médecin, qui immédiatement se dirigea vers la porte. Monsieur Lecoq l'arrêta par le bras. Je me permettrai, observa-t-il, d'un ton qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait eu jusqu'alors, je me permettrai d'appeler l'attention de monsieur le docteur sur les blessures faites à la tête de madame de Trémorel par un instrument contondant que je suppose être un marteau. J'ai étudié ces blessures, moi qui ne suis pas médecin, et elles m'ont paru suspectes. « Et à moi aussi, dit vivement le père Plantin, il m'a semblé qu'il n'y avait pas eu aux endroits atteints effusion de sang dans les vaisseaux cutanés. »« La nature de ces blessures, continua M. Lecoq, sera un indice précieux qui me fixera complètement. » Et comme il avait sur le cœur la brusquerie du juge d'instruction, il ajouta, innocente vengeance, « C'est vous, monsieur le docteur, qui tenez l'allumette. » Monsieur Gendron se disposait à sortir lorsque sur le seuil apparut le domestique de monsieur le maire d'Orcival, Baptiste, l'homme qu'on ne gronde pas.
Il salua longuement et dit « Je viens chercher monsieur. »«
Moi ?» demanda monsieur Courtois. « Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Ne saurait-on me laisser une minute en repos ? Vous répondrez que je suis occupé. »
« C'est que, reprit le placide Baptiste, c'est rapport à madame que nous avons cru devoir déranger monsieur. Elle n'est pas bien du tout, madame. »
L'excellent maire pâlit légèrement.
« Ma femme ? » s'écria-t-il sérieusement inquiet. « Que veux-tu dire ? Explique-toi donc.
Eh bien voilà, continua Baptiste de l'air le plus tranquille du monde.
Le facteur arrive tout à l'heure avec le courrier. Bon, je porte les lettres à madame, qui était dans le petit salon. À peine avais-je tourné les talons, que j'entends un grand cri et comme le bruit d'une personne qui tombe à terre de son haut.
Baptiste s'exprimait lentement, mettant, on le sentait, un art infini à augmenter les angoisses de son maître.
« Mais parle donc !» disait le maire exaspéré. « Parle, va donc !»«
Naturellement, poursuivit le drôle sans se hâter, je rouvre la porte du petit salon. Qu'est-ce que je vois ?»«
Madame étendue à terre. Comme de juste, j'appelle au secours. La femme de chambre arrive, la cuisinière, les autres, et nous portons madame sur son lit.
« Il paraît, m'a dit Justine, que c'est une lettre de mademoiselle Laurence qui a mis madame dans cet état. »
Le domestique, qu'on ne gronde jamais, était à battre. À chaque mot, il s'arrêtait, hésitait, cherchait. Ses yeux, démentant sa figure contrite, trahissaient l'extrême satisfaction qu'il ressentait d'un malheur survenu à son maître.
Ce maître, hélas, était consterné, ainsi qu'il nous arrive à tous, quand nous ne savons au juste quel malheur va nous atteindre, il tremblait d'interroger. Il restait là, anéanti, ne bougeant, se lamentant au lieu de courir.
Le père Planta profita de ce temps d'arrêt pour questionner le domestique et avec un tel regard que le drôle n'osa pas tergiverser.
« Comment ? Demanda-t-il une lettre de mademoiselle Laurence ? Elle n'est donc pas ici ?
Non, monsieur, elle est partie il y a eu hier 8 jours pour aller passer un mois chez une des sœurs de madame.
Et comment va madame Courtois ?
Mieux, monsieur. Seulement elle pousse des cris à faire pitié.
L'infortuné maire s'était redressé sous le coup. Il saisit son domestique par le bras.
Mais viens donc, malheureux, lui cria-t-il, viens donc. Et ils sortirent en courant.
Pauvre homme, dit le juge d'instruction, sa fille est peut-être morte.
Le père Planta hocha tristement la tête. Oh, oh, si ce n'était que cela, dit-il. Et il ajouta, rappelez-vous, monsieur, les allusions de la ripaille.